on va passer aux échanges avec la salle. Je pense qu'il doit bien y avoir quelques questions.
Oui, bonjour à tous. Je suis Charlotte Lhermitte, je suis chargée de développement œnotourisme à l'agence touristique de Saône-et-Loire. Donc, je travaille entre autres avec Marie sur l'évolution des critères du label de la charte vignoble et découverte. Mais ce n'était pas sur ce sujet-là que je voulais aborder. J'avais deux points en fait sur les différentes interventions. Le premier, c'était au niveau des routes des vins, notamment la route des Grands Crus. Donc Olivier, vous aviez expliqué un peu l'historique. Et je voulais avoir votre avis sur la route des vins d'Alsace, qui cette année, au niveau œnotouristique, a porté un seul dossier vignoble et découverte, sachant qu'ils avaient au moins 6 ou 7 destinations vignoble et découverte qui sont fusionnées en une seule, en gardant vraiment le dénominateur commun de la route des vins en tant que marqueur voilà, de œnotouristique. Et donc je voulais avoir un peu votre avis, ou même des autres intervenants, sur cette démarche.
Alors merci pour ces belles questions. Alors je suis pas spécialiste de la route des vins. La route des vins de Bourgogne, c'était dans une construction historique spécifique. Je vais reprendre ce que j'ai lu de chez Sophie Lignon d'Armaillac, qui était là tout à l'heure et qui a travaillé sur les routes des vins en particulier. Donc elle est de 53, hein, la route des vins d'Alsace. Elle se fonde a priori hein, sur le même modèle que celle de Bourgogne. L'idée, c'est d'attirer les touristes. Et moi, je la vois un petit peu différemment. Pour le coup, c'est une route qui est très esthétisante et qui est très paysagère. Elle se construit en plus, si on regarde au moment de la construction des appellations d'origine en Alsace. Et les appellations d'origine alsaciennes, elles ne sont pas du tout les mêmes au départ que celles de Bourgogne, qui se basent sur le lieu en Bourgogne. En Alsace, les premières, c'était sur le cépage. Depuis, on a développé autre chose, avec les grands crus et bientôt les premiers crus. Mais donc, derrière cette route, pour moi, elle a un sens beaucoup plus esthétisant et uniforme, avec un imaginaire beaucoup moins important, finalement, ancré dans la terre, beaucoup moins vertical. Mais par contre, un paysage extraordinaire. Voilà. Mais c'est tout ce que je peux en dire, parce que même si elles se fondent a priori sur le même modèle. Après, il y en aura d'autres qui vont se fonder sur des modèles différents dans le Nouveau Monde. Mais là, je vous laisse en discuter à la pause avec Sophie Lignon, si elle est d'accord.
Je ne sais pas s'il y en a qui ont des... Est-ce que Sophie a un complément de réponse ?
Oui, merci Olivier. Oui, je pense que c'est une des difficultés de vignoble et découverte. Il y avait une unité, je suis d'accord, pour l'Alsace, et cette unité, c'est facile, parce que c'est pas très long, c'est rectiligne, c'est vraiment une route, c'est pas une espèce de réseau. Donc dans ces régions-là, coupées avec deux vignobles et découvertes, eh bien, on ne sait plus où on en est. Dans d'autres régions, c'est une partie d'un vignoble et pas la totalité. Autrement dit, par rapport aux définitions qu'il y avait des territoires d'appellation, ou au territoire touristique de route des vins, parfois vignoble et découverte est venu casser cette logique pour faire en sorte qu'il y ait un seul label pour l'ensemble de la France, quel que soit le vignoble. Or, pour certains vignobles où il n'y a pas une route rectiligne comme ça, pourquoi pas ? Mais pour des vignobles qui ont une histoire, qui ont une unité paysagère, voilà. Il y a peut-être d'autres types de reconnaissance de labels. Et j'en profite puisque j'ai le micro. Alors c'est une question un tout petit peu dérangeante, excusez-moi. C'est quelle est l'aide, quelle est la motivation pour effectivement les acteurs, ceux qui revendiquent ce label, quelle est l'aide financière, quelle est l'aide quand on voit ce que fait Lavo, quelle est l'aide qu'apporte ou pas encore hein, Vignoble et Découverte pour de la formation par exemple. Et pour que, je ne sais pas, Vignoble et Découverte pourrait porter la dimension historique, il faut effectivement qu'il y ait un discours derrière ces destinations. Est-ce que Vignoble et Découverte apporte aussi une aide pour formater ce discours, pour qu'il soit transmissible, voilà.
On garde la question, on finit juste sur la route de l'Alsace, la route des vins d'Alsace avant. Par rapport à ta remarque, si je peux me permettre, même en tant qu'animateur, tant pis, je pense que tu dis exactement... quelque chose de vrai, c'est-à-dire que grâce à un label, on a déstructuré un territoire qui est en train de se restructurer, puisque là, ils ont reproposé de retrouver cette entité de la route des vins d'Alsace. Quoi. Et c'est là où ce que je disais ce matin, et ce que Manuel va peut-être compléter, revenir toujours au territoire, et que les dispositifs que l'on met en place, et on est en train de faire la même chose en œnotourisme parfois, ne déstructure pas ce qui est notre identité, notre valeur, notre histoire. Voilà, c'est juste, et je pense que le rôle de l'animation de ces labels de... Allez, je vais le dire franchement, de ces labels qui nous viennent de nous, de chez nous, de Paris, on a toujours une certaine vigilance. Et donc, revenons à ces valeurs, à cette histoire, à cette connaissance avant d'aller plus loin.
Oui, mais j'ai juste une petite anecdote par rapport à la route du vignoble, parce que sur l'Avon, on a une route de vignoble qui a été mise en place en 1964, donc un peu plus, mais qui était inspirée de la Bourgogne et puis qui a très, très, très bien fonctionné. C'était la route du vignoble, le Suisse. Et ce qui est intéressant, après l'inscription, on l'a remis au goût du jour, donc on l'a réinspiré, donc on a remis la signalisation en place et autres, et puis on a fait les dépliants touristiques qui se basaient, en fait, qui suivaient cette route du vignoble. Et puis en fait, on s'est planté, comme on dit en Suisse. Pourquoi ? Parce que, pour deux raisons, c'est que cette route du vignoble, elle était pensée pour les années 60. Dans les années 60, on se déplaçait de manière différente, on avait beaucoup, beaucoup moins de voitures qu'on en a maintenant. Et puis, en faisant ça, on a amené des voitures dans le vignoble sur les petites routes, qui a surchargé déjà des routes qui sont compliquées. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que les gens, ils trouvaient pas de place de parc. Donc, en fait, on n'a fait que d'amener des gens qui traversent le territoire, qui restent finalement... ça se traverse en 40 minutes. En 40 minutes, ils traversent le territoire, puis qui reprennent l'autoroute et qui repartent. Et puis, on a commencé... Alors, on a tout de suite arrêté. On a fait 2 ans. Et puis on a arrêté. Mais comme quoi aussi, il y a eu de l'évolution. C'était un produit qui était très très bien pensé dans l'esprit de tourisme mécanique, si j'ose dire, qu'on avait dans les années 60, qui n'est plus présent maintenant et plus forcément réel ou différent maintenant.
Marie, pour la question sur les aides.
Donc alors. Quand un prestataire rentre dans le label Vignoble et Découverte, alors je vais parler pour la destination Beaune de Corton-Montrachet et puis la destination Dijon-Côte de Nuit, même si c'est la même chose pour les destinations labellisées en Saône-et-Loire. Le prestataire rentre dans un réseau, pas seulement dans un réseau de prestataires professionnels qui proposent une offre œnotouristique, mais rentre également dans un réseau de partenaires institutionnels. Donc on a l'Office du tourisme, on a Côte d'Or Tourisme, Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, on a l'Association des climats, on a le BVB. Et ensemble, en fait, on propose un accompagnement donc, pour l'animation du réseau, mais pas seulement, et pour la professionnalisation des prestataires. Donc là, on a des formations pour les accompagner dans leur activité, soit dans le développement de leur activité, soit pour monter en compétences ou monter en gamme. Par contre, en termes d'aide financière, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas d'aide financière spécifique réservée aux professionnels œnotouristiques labellisés Vignoble et Découverte. Le label est gratuit, il est attribué par 3 ans par la destination. Atout France ne finance rien sur le label. Donc après, ce sont aux partenaires institutionnels de financer ce label et aujourd'hui de financer par exemple tout l'accompagnement et les formations. Et par contre, il existe des aides, par exemple au niveau de la région, pour le développement d'activités touristiques. Mais pas des aides ciblées œnotouristiques. Je ne sais pas si, Sophie, j'ai répondu à votre question, finalement. Je ne sais pas.
Je peux ? Ah non, oui. J'avais le micro. Alors, j'avais le micro.
Jocelyne, tu as la priorité.
Oui, alors donc, Jocelyne Pérard.
Je m'incline.
Merci. Il vaut mieux, hein ?
Vos connaissances, ça ne m'étonne pas.
Oui, Jocelyne Pirard, donc fondatrice et titulaire de la chaire UNESCO Culture et Tradition du Vin, seule chaire UNESCO au monde sur la vigne et le vin, j'insiste. Mais accessoirement, non pas accessoirement, parallèlement, je suis coprésidente du comité d'orientation stratégique de la Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon. Qui a été créé et qui va finir de se bâtir dans quelques temps, dans le cadre de la reconnaissance du repas français par l'UNESCO au patrimoine immatériel. Et donc, je pose une question. Nous avons montré depuis ce matin qu'il y a une véritable dynamique. Quand on voit la vigne, le rôle qu'elle joue, les paysages, tout change, tout bouge. Je pose la question, donc, doit-on rester bloqué dans le concept d'énotourisme ? Vous parliez de choses, d'idées à renouveler, d'enrichissement. Comment, quelle est la stratégie ? Et je ne pense pas qu'à tout France, il y ait une stratégie dans ce sens-là, puisqu'on est sollicité pour les réunions, il y a des gens de la chaire qui y vont. Comment fait-on bouger les choses pour que la gastronomie, qui est aussi un patrimoine, qui est très souvent associé au vignoble et au vin, puisse être intégrée au même titre. Nous, on commence à travailler sur la notion de tourisme éno-gastronomique, par exemple. Je ne vois pas comment on doit rester bloqué. On n'a qu'à regarder, et Sophie ne va pas dire le contraire, ce qui se passe en Espagne, en Italie et au-delà de l'Europe. Je pense au Brésil, par exemple, ou au sud du Brésil, dans la région du sud de Rio Grande do Sul, qui est victime, justement, on l'évoquait ce matin, d'un tourisme de masse qui met en danger les paysages, les vignobles. Enfin bon, on a déjà intégré, c'est une ancienne région peuplée de migrants italiens, et on a vraiment là une intégration du tourisme éno-gastronomique. Et si on reste, je rejoins dans cela les critères d'Atout France avec les labellisations, on n'en sortira pas. Or, les choses évoluent, il faut absolument, et je pense au maire, j'en parlais tout à l'heure avec madame la maire de Tonnerre, si les maires, si les collectivités, si toutes les forces vives veulent se mobiliser pour développer un tourisme dans leur région, je crois que la clé, c'est d'élargir, je ne veux pas dire de sortir de l'énotourisme, mais d'élargir le concept. C'est un concept qui n'existait pas, ben, il y en aura un nouveau, et puis après il y en aura un nouveau, mais je pense que ce qui doit triompher, c'est le dynamisme. La vigne, le vin, sont le reflet de la société. Sont le reflet des sociétés humaines, sont le reflet de la société. Le vin est un objet culturel, est un produit humaniste, s'il en est, qui rapproche les gens. Je crois qu'on ne peut pas se stopper un moment sur des critères qui seront, étant stoppés, réducteurs. Voilà.
Merci Jocelyne. Je pense qu'on partage, on partage ces éléments-là. Après, je sens la critique, mais l'observation sur Atout France, juste pour répondre, il n'y avait pas forcément de réponse, mais demain, on part les sites UNESCO de Bourgogne-Franche-Comté sur une destination lointaine. Les offres, pour ma part, proposées par l'Office de tourisme de Beaune, celui de Gevrey, Nuit et celui de Dijon, sont totalement dans cet esprit-là. On est sur une offre dégustation, gastronomique, patrimoine, culture, et je pense que les offices de tourisme et les prestataires du tourisme l'ont bien compris qu'on était sur cette palette. Je pense que les guides, on sait très bien que c'est plusieurs thématiques. C'est là où c'est intéressant. Ce qu'a fait Lavaux, justement, je pense, c'est que dans la formation des trois jours, on traite un petit peu tous les thèmes. Les guides, on en parlera peut-être, mais parfois, ou anciennement, ça, je pense que je connais moins le monde des guides peut-être maintenant, mais on était dans un axe, dans un thème. Maintenant, on a besoin d'avoir une palette assez vaste et il faut que nous, tous les professionnels, on accompagne ces passeurs à l'être dans de bonnes conditions. Une question ?
Oui.
Alors, oui.
Oui. Oui, Roi Francis, donc là je reprends ma casquette Indivio Veritas, dont l'objectif de l'association c'est la revalorisation du patrimoine viticole de la banlieue dijonnaise. Donc dans ce cadre-là, on a affaire en permanence avec les communes limitrophes de Dijon. Hein ? Donc on a dans le classement toute une zone, la zone de classement, et de part et d'autre de cette zone de classement, on a des communes limitrophes qui sont appelées communes de la zone écrin. Donc pour moi, écrin, c'est la mise en valeur d'un objet. Donc je voulais savoir quel était le rôle de ces communes de cette zone écrin dans le classement UNESCO là, parce que j'ai beaucoup de maires avec qui je discute ou d'autres prestataires ou d'autres intervenants qui ne connaissent pas forcément, qui ont entendu parler bien sûr des climats de Bourgogne, mais qui ne connaissent pas forcément leur rôle et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à ce classement. Donc, et puis une deuxième petite question, c'est Vignobles et Découvertes. Est-ce que vous avez commencé votre prospection du côté de Dijon et notamment les communes? Parce que ces communes-là, me semblent, d'après les recherches historiques qu'on a faites, très importantes, puisqu'elles ont fourni beaucoup de vin au bailli de Dijon, par un moment, puisqu'il n'y avait qu'eux qui pouvaient fournir un vin. Donc, je voudrais savoir quel est le rôle de ces communes qui sont limitrophes, qui ne font pas partie de la zone de classement, mais qui sont dans la zone écrin, pour participer à cet œnotourisme, à toutes ces actions.
Oui, je vais répondre, parce qu'en tant que directeur des climats du vignoble de Bourgogne, je me sens un petit peu concerné, mais je vais faire très rapidement, parce qu'on déborde un petit peu du sujet. Mais juste pour dire, pour l'UNESCO, ce qu'ils appellent, eux, la zone tampon, qui ne s'appelle pas écrin, qu'on a refusé ici d'appeler ça une zone tampon, je vais le dire clairement, ce n'est pas le périmètre inscrit au patrimoine mondial. Ce sont des communes qui ne le sont pas, mais qui néanmoins, grâce notamment pour nous sur un paysage culturel, mettent en valeur, contribuent à cette partie centrale qui a été reconnue pour, en tant que valeur universelle exceptionnelle. Et juste pour faire rapidement, donc voilà, ils ne sont pas sur le territoire inscrit au patrimoine mondial, mais ce que l'UNESCO ne souhaite pas, c'est qu'on porte une attention particulière aux communes qui sont inscrites au patrimoine mondial, puis que du coup, on l'a vu sur certains grands sites de France et autres, en périphérie se fait un peu n'importe quoi, et que la valeur du site se dilate. Et, donc, bon. Et là où je vous rejoins, c'est que nous, sur notre territoire, pour à ce jour, on n'a pas suffisamment travaillé sur cette zone écrin dans le territoire des climats, notamment dans notre plan de gestion, mais ce n'était pas dans la candidature, donc l'UNESCO ne nous l'a pas demandé, il va falloir qu'on le fasse. Et on le fait déjà parce que cette préoccupation qu'on a évoquée tout à l'heure, ou de polyculture, l'avenir des Hautes-Côtes, si on ne se pose pas cette question-là vis-à-vis du territoire inscrit au patrimoine mondial, on fait une grave erreur. Certains voudraient mettre de la vigne partout, on le dit clairement si je caricature. Est-ce que c'est la bonne chose? Je pense que dans les destinations vignobles et découvertes, on prend l'ensemble des vignobles, même ceux qui ne sont pas sur le terrain. Ça s'est déconnecté complètement du territoire inscrit au patrimoine mondial. Voilà, donc on ne va pas faire plus long parce que ce n'est pas totalement le sujet. Peut-être répondre sur...
Rapidement, pour le périmètre Dijon-Côte-de-Nuit, effectivement, la Chambre de commerce reprend officiellement ce périmètre jeudi prochain. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on a seulement commencé des visites pour le renouvellement des prestations qui sont déjà labellisées, mais on n'a pas du tout commencé toute la prospection. On voulait auparavant travailler sur l'évolution de la démarche de labellisation et effectivement, parmi cette évolution, travailler sur le périmètre de la destination Dijon-Côte-de-Nuit. Donc, voilà, on n'est pas encore aussi avancé que ça sur Dijon-Côte-de-Nuit.
Oui, bonjour, Muriel Pagano, Hérotourisme. Donc, moi, je voulais intervenir suite aux propos qui ont été tenus sur Vignobles et Découvertes il y a quelques questions avant. Je suis un peu déçue, je suis très admirative de ce qui a été fait sur cette région, sur les climats. Par contre, je suis un tout petit peu déçue par l'idée de dire que le label Vignobles et Découvertes déconstruit le no-tourisme. Nous, on a un témoignage qui est très simple et qui est très clair en Languedoc. C'est que pour nous, ça a apporté un réseau, un travail en réseau, une structuration qui n'aurait jamais été possible. Je fais référence pour ça à ce qui a été dit ce matin par ce domaine qui nous parlait de « oui, j'envoie les gens de ma restauration, je les envoie découvrir d'autres restaurants, etc. » Il faisait pareil pour le vin et je trouvais ça très bien parce qu'en effet, c'est la mise en réseau qui permettra à une destination de devenir et de compter parmi les destinations de vignobles. Pour nous, c'est comme ça qu'on l'a pris et donc j'étais un peu déçue parce qu'au contraire, je trouve que c'est un label très simple qui croise 8 thématiques. Qui n'a pas le fond culturel que peut porter, en effet, tout l'historique qui nous a été apporté aujourd'hui par ce séminaire? qui peut-être en manque encore, mais qui aujourd'hui est complètement vivant. Voilà, je voulais dire ça. Et c'est une histoire, enfin, pour moi, c'est une histoire d'appropriation. Il faut que les vignerons s'approprient l'idée de travailler avec la gastronomie. Nous, on a ces problèmes, on ressent beaucoup de problèmes qui ont été dits aujourd'hui. Par contre, j'ai été un peu limite choquée, voilà, par les propos qui ont été tenus. Il descend peut-être de Paris, mais moi, je trouve qu'il est utile. Pour finir mon témoignage, nous avons aujourd'hui 5 destinations qui ont mis du temps, qui ont mis beaucoup de volonté pour avoir ce label, ce qui représente 500 prestataires, dont 164 caveaux. Et pour nous, c'est une démarche vers la qualité. Voilà, je vous remercie.
Je vais me permettre aussi de répondre, parce que ce sont mes propos justement qui ont amené ça, mais c'est mon rôle d'animateur de titiller un peu et de provoquer. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce que je disais juste, c'est sur la route des Grands Crus, dans la route des vins d'Alsace, c'est pas forcément décortiqué, on a peut-être détricoté. C'est-à-dire on a tricoté avec des couleurs d'un instant, puis on se rend compte, et c'est l'Alsace qui nous le dit, quelques années après, ils se disent, bah, tiens, pourquoi on a déposé plusieurs destinations, c'est une seule. Donc on va le retricoter un petit peu différemment. On enlève un peu de tricot, on le retricote un peu différemment, et ça, c'est la construction du label, et c'est très positif. Dans mon idée, c'est très positif. Je pense qu'on en parlera après avec les cités, où ces labellisations, ces cahiers des charges, ces animations, c'est l'un des vecteurs indispensables pour renvoyer sur le territoire, même sur les outils de médiation et les lieux culturels. Est-ce qu'il y a des compléments ? Sophie ? Mais il y a peut-être d'autres questions, hein, c'est pas, y en aura d'autres ? Ah, il y a 2 questions devant. Ah, pardon, allez-y. Sophie, attends un instant.
C'est juste pour faire écho, voilà, 2 minutes. Mais c'est juste pour dire que, le vignoble et découverte ne détricote pas le no-tourisme, mais les territoires de le no-tourisme, c'est pas la même chose, et que ça les détricote quand il y a une route et un territoire qui est déjà formaté, si je puis dire. Dans l'Hérault, il n'y a pas de route de vin que je sache, il n'y avait pas une structuration aussi ancienne qu'en Bourgogne ou qu'en Alsace. Donc que ce soit une aide, oui, évidemment, c'est une aide pour l'Hérault, mais ce n'est pas forcément une aide partout. Tous les territoires, là, c'est un géographe qui parle, les territoires ne sont pas tous égaux entre eux.
Allez-y.
Guylaine Chouissa de la région Bourgogne-Franche-Comté. Juste une petite remarque pour évoquer les aides financières. Il existe des aides financières propres à l'œnotourisme que la région a mis en place relativement récemment. Et dernièrement, voilà, l'Assemblée régionale a voté une subvention pour le caveau du Moulin à Vin. Voilà, un exemple. Donc pour voilà, de la rénovation, du réaménagement, de l'amélioration du circuit de visite. Voilà, donc il existe des choses spécifiques sur l'œnotourisme. Et puis, il y a aussi 2 autres aides qui ne sont pas spécifiquement liées à l'œnotourisme, mais qui peuvent s'y appliquer. C'est l'aide au conseil pour des études touristiques. Et puis, une aide modeste sans doute, mais qui peut être déterminante pour l'aide pour par exemple des outils numériques. Voilà.
Merci, Madame le Maire.
Moi, juste pour intervenir sur le milieu environnemental, puisque en fait peu de personnes en ont parlé, mais Monsieur a parlé des paysages, des arbres, des haies, des bosquets, et qui ont complètement disparu dans l'univers qui est celui de la viticulture. Et je voudrais vraiment attirer l'attention particulièrement parce que nous, les maires, nous sommes confrontés à des difficultés, et en particulier au PPRI, au plan de prévention des risques inondations. Et quand je vois en fait les chemins qui sont pavés, clairement, on se retrouve dans nos communes avec les changements climatiques qui sont des gros orages, qui sont des arrivées de grêle, avec des villages qui sont transformés en torrents. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on se pose aussi la question environnementale sur la viticulture, mais pas à outrance, avec le respect aussi de ce que c'était la construction d'un territoire viticole.
Merci.
Oui, excusez-moi.
Allez-y.
Oui. Moi, je voudrais revenir sur la partie donc Marie-Agnès Guyot du CFPA de Beaune. Sur la partie formation des guides patrimoine qui a été conduite donc en Suisse. pour faire part d'une expérience qui a été faite aussi au niveau de la région Bourgogne, hein, et par les établissements de formation agricole qui ont, dans les années 2000, conduit des formations de guides de pays. Donc nous, on les appelait plutôt guides de pays, qui étaient effectivement dans la même logique des gens du territoire, qui se formaient pour pouvoir parler de leur territoire. Donc ces gens-là se sont ensuite constitués en associations, donc il y en avait un petit peu sur toutes les régions de Bourgogne. Et alors évidemment, cette formation elle s'est faite au début des années 2000. Les guides ont vieilli, et donc aujourd'hui, il en reste peu. Mais on était dans cette même logique de formation sur un territoire spécifique, puisque c'était sur leur propre territoire. Donc c'est une expérience qui a existé aussi.
Merci pour votre témoignage.
Bonjour, Isabelle Coron de Côte d'Or Tourisme. Donc je voulais revenir un petit peu sur les propos de ma collègue de l'Hérault, que je partage bien évidemment. Il faut bien dissocier effectivement ce qui relève de la structuration de l'offre, de ce qui relève de la promotion, de la communication et de la manière dont on parle du territoire pour faire venir le client. Le label Vignoble et Découverte, c'est véritablement un label qui est là pour mettre en réseau les prestataires touristiques, faire en sorte qu'ils se connaissent entre eux, monter en gamme, améliorer leur offre, améliorer leurs compétences, tout ce que Marie a dit. Quand on communique sur la destination, en tout cas ici en Bourgogne, je crois que ce matin Pascal Gersen a évoqué l'automne en Bourgogne, on communique via différents moyens selon les clientèles qu'on souhaite toucher. On communique sur la route des Grands Crus, on a fêté les 80 ans en 2017 et on a bien vu qu'on avait beaucoup de difficultés malgré tout à mobiliser des acteurs à nos côtés pour pouvoir faire vivre cette route. Et c'est encore un questionnement qu'on a avec Bertrand dans le cadre de la commission tourisme des climats. On communique sur les climats aussi bien évidemment, on communique sur les destinations, sur les villes, sur les villages. Mais le label Vignoble et Découverte n'est pas là principalement pour la communication, il est là principalement pour la structuration. Voilà.
C'était important de le rappeler. Nouvelle intervention en haut. On a décidé de décourter et puis de les faire même disparaître, les pauses. Voilà, comme il y a beaucoup de questions, ça, c'est plus intéressant.
Donc, Marina, toujours de l'entreprise Ficofi. Je voudrais revenir à la notion de ce qu'Emmanuel a évoqué dans l'esthétisme du paysage viticole et du territoire viticole et de l'implication de l'UNESCO, des différents acteurs dans cette notion de beauté sur le patrimoine viticole et de tous ces vignobles. Et est-ce que vous êtes acteur avec les différentes politiques locales de l'urbanisation et de cette préservation de ces climats et de l'extension de l'urbanisme avec cette beauté viticole en France sur la côte? On voit beaucoup d'aménagements dans la périphérie des Dijon, des Gévrey-Chambertin, vers la gare, la Verbonne également, des grosses structures métalliques et des garages industriels. Comment l'UNESCO ou les climats peuvent intervenir pour mettre en place des chartes, codes couleurs, des préservations pour que ces bâtiments se fondent dans les paysages, ou comme ils ont fait à Sainte-Maxima-la-Sainte-Baume avec des chartes et des matériaux de construction, comme vous avez repris pour les murs, détail. Comment vous êtes acteur de ces décisions d'aménagement?
Voilà, il y a beaucoup de réponses qu'on peut apporter. D'abord, préciser qu'on n'est pas inscrit pour un critère esthétique. On n'est pas inscrit sur le critère 7, on est inscrit sur des critères culturels. Et puis l'inscription repose vraiment sur l'interaction et cette histoire de l'homme avec son environnement, avec la construction du vignoble. Premier élément. Le deuxième élément, c'est que quasiment l'entier du vignoble est déjà protégé depuis 1979 en Suisse, 1979 pour vous. Et puis qui a garanti d'ailleurs le fait qu'on est sur un vignoble d'un seul tenant entre les deux centres urbains qui sont très importants. Si on n'avait pas eu ça, je pense qu'on aurait eu un paysage construit beaucoup plus important. Maintenant, par rapport au rapport de l'esthétisme, on a fait un programme intéressant parce qu'effectivement, et tout le monde vient à Lavaux avec ce rapport, avec ce qu'on dit dans la terminologie du tourisme, le « wow ». Et puis, on a invité pendant plusieurs années des artistes chinois, des peintres, pour qu'ils viennent peindre le paysage de Lavaux. Et puis, c'est intéressant parce qu'en fait, ces peintres chinois, quand ils sont venus, ils ont fait le même wow que les Européens ou les Américains qui viennent visiter le site. Mais par contre, ce qu'ils ont peint, c'est complètement différent des photos que nous, on prend. Un des exemples, c'est qu'une des peintures les plus célèbres, qui est d'ailleurs exposée à Pékin, parce que c'est des peintres qui sont très célèbres, met en évidence la route nationale qui est très récente et qui traverse le vignoble. Il le met complètement en évidence, puis au centre de la peinture, alors que nous, dans les photos, on fait que d'essayer de pas la prendre en photo. Donc le rapport à l'esthétisme est finalement ne repose pas sur des critères qui sont physiques, mais sur le ressenti après qu'on a par rapport à ça. Et puis juste pour finir, on a des règles qui sont très strictes maintenant sur la zone centrale, donc sur la zone inscrite, tant au niveau des constructions, des rénovations et de l'entretien des murs et du vignoble, ce qui fait qu'on garantit une structure physique telle qu'on l'a maintenant, mais qui ne nous empêche pas d'avoir des évolutions et puis d'avoir une évolution viticole toujours permanente dans ce cadre-là.
Et en complément, deux observations, parce que c'est là aussi on déborde un petit peu du sujet, puisque vous avez parlé des climats. Oui, c'est totalement dans nos préoccupations. J'irais même plus loin, on aurait peut-être dû commencer le colloque par là. La question du tourisme, de l'œnotourisme, l'UNESCO, c'est vraiment pas sa tasse de thé, mais ça ne l'intéresse pas du tout. Mes collègues qui sont ici, des offices de tourisme, de Côte d'Or Tourisme, etc., savent combien il est difficile de parler tourisme avec l'UNESCO, puisque pour eux, c'est une volonté de protéger la valeur universelle. C'est de la protection. Donc à nous de mettre en place des dispositifs de protection. Nous, comme Lavaux, on s'est battu pour dire que c'est un territoire qui ne sera jamais sous cloche, puisque c'est un territoire vivant, qui évolue, et on l'a très bien vu avec notamment nos deux scientifiques. Et donc, trouver l'équilibre dans tout ça, faire du tourisme, quand je dis ça, je dis on ne fait pas de tourisme, hein. Faire du tourisme durable, éviter le sauvage, travailler en amont avec tous les partenaires, c'est totalement dans nos discussions, jusqu'à des questions d'urbanisme, puisqu'en juillet 2018, l'UNESCO nous a mis une contrainte à nous, les climats, un peu expérimentale, en disant tous les projets qui ont lieu sur ces 13 000 hectares, vous devez évaluer la valeur qu'aura ce projet sur l'impact qu'aura ce projet sur la valeur universelle. Donc évidemment, j'ai des collègues ici présents, avec toutes les collectivités, tous les partenaires, les services de l'État, on travaille sur cette notion d'impact et d'éviter voilà, ce que vous évoquez, mais c'est un travail qui est lourd, difficile et qui ne doit pas non plus arrêter le développement de ce territoire. C'est un territoire vivant, on le sait très bien. Voilà, donc je ne dis pas plus parce qu'on n'est pas forcément dans le sujet. Sauf s'il y a une dernière question fondamentale, parce qu'on a nos ateliers, la présentation de projets emblématiques ensuite pour notre territoire, qui servent aussi de cas d'école. Hein. L'idée, c'est de les présenter de cas d'école. Est-ce qu'il y a une... C'est bon, on peut conclure l'atelier ici. Je vous rappelle qu'on est sur un colloque, une lancée, donc peut-être qu'on aura ces sujets, reviendront de toute façon dans l'actualité. Je remercie vivement mes quatre intervenants. Félicitations. Et au plaisir de pouvoir poursuivre ces échanges qui ne sont avant tout des partages entre le monde scientifique, la culture, les gestionnaires, les guides, etc. Merci à tous.